Je vous remercie. Je dois d'abord vous présenter mes excuses parce que il semblerait que je n'avais qu'un quart d'heure de retard. Je n'avais droit qu'à un petit quart d'heure de retard. Je crois que j'en ai fait un peu plus. Je pense que, vu la qualité de l'auditoire, l'intérêt du sujet a dû être extrêmement grand. On nous indique qu'il y a eu des gens qui sont venus d'un peu partout, de Marseille, de Paris. Il n'y a donc pas que moi qui suis venu de Paris. Il y en a sûrement d'autres que nous ne connaissons pas exactement, dont nous ne connaissons pas les points de départ. Je vous remercie tous d'être venus, si nombreux. Et je renouvelle encore une fois mes excuses d'avoir eu ce petit retard. Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que il s'est passé pour cette conférence à peu près ce qui s'est passé pour le livre dont il est l'objet. C'est-à-dire que j'ai eu des gens, qui étaient sûrement bien intentionnés, qui m'ont dit, mais vous allez à Lyon ? Pourquoi non ? Nous sommes le 29 mai, 29 mai 2004, c'est-à-dire la date anniversaire de la mort de Alice Wally. Et vous savez que Lyon, c'est le bastion du socialisme. Et vous avez dit beaucoup de mal du socialisme dans votre livre. Vous risquez de nous revenir en morceaux. On ajoutait d'ailleurs, on s'en malise, que Lyon, c'était aussi le bastion du négationnisme. Vous faisiez probablement allusion aux tribulations de cet universitaire qui, je crois, en a eu tellement que ses diplômes lui ont été retirés. En ce qui me concerne, comme je n'en ai pas beaucoup, je crois qu'on peut me retirer sans grand dommage ces quelques paperasses inutiles. J'ai tenu quand même à venir parce que c'est vraiment très sérieux. Il y a un dialogue qui devait être, je crois, engagé depuis 1978, justement. Ce dialogue n'a pas été engagé. Ce dialogue aurait dû être engagé au moment où des courants qui se réclamaient du socialisme se sont dessinés un peu partout à travers les Comores. Le dialogue n'a pas été engagé. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je crois que nous pouvons aujourd'hui essayer d'engager ce dialogue. Nous devons engager ce dialogue parce que si les choses restaient en l'état, je crois que nous n'aurions que des regrets pour l'avenir et le pays serait toujours bancal. Déjà, nous marchons sur trois pattes, bientôt d'ailleurs sur deux, pratiquement sur deux. Si en plus, à l'intérieur de ces pattes, les éléments, les cellules, les atomes devaient encore rester déchirés, s'ils n'arrivaient pas à trouver une certaine unité, je crois que ce serait un très grave danger pour notre pays, un très grave danger pour les individus, un très grave danger pour les groupes. Je crois qu'il est temps d'engager ce dialogue. Et j'ai tenu à faire ce pas. J'espère que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi feront le second. Pour qu'enfin, un jour, nous puissions parler calmement de notre histoire. Pour que nous puissions trouver les raisons, et elles sont nombreuses, qui font que nous devons être ensemble pour battre ce pays. Et oublier les quelques dissensions qui sont absolument inévitables dans toute vie communautaire. Je crois que c'est très important. Mais je suis venu aussi pour accomplir un double devoir de politesse. Un devoir de politesse d'abord à l'égard de la Diascom, qui m'a, je m'en souviens, en juillet 2003, l'année dernière, le 6 exactement, déjà invité. J'ai malheureusement eu des obligations professionnelles qui à ce moment-là ne me permettaient pas de me déplacer. Aujourd'hui, j'ai bien entendu d'autres obligations. Je dis bien entendu parce qu'il y en a toujours. Mais je me suis dit qu'il va falloir absolument que j'inverse le rôle des priorités pour que je puisse quand même répondre à cette invitation que je considérais comme extrêmement importante. Et je suis venu aussi pour accomplir un devoir de politesse à l'égard de cette jeunesse. J'espérais en trouver un peu plus, mais de toute manière, je crois que nous aurons le relais d'une certaine presse qui existe quand même. Nous aurons le relais de ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire les enregistrements sonores et visuels. Nous aurons ces relais pour que le message, le modeste message que je voudrais faire passer, parvienne à cette jeunesse. À cette jeunesse à laquelle je me suis permis de m'adresser dans ce livre, justement. Cette jeunesse, surtout celle qui a l'ambition légitime de nous gouverner. Ce que je voulais leur dire dans cet ouvrage, dans ce modeste ouvrage, je voulais leur dire simplement, attention, vous allez diriger le pays demain ou peut-être même déjà dès aujourd'hui. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà le chemin qu'il ne faut pas prendre. J'entends bien, cela ne va pas de soi. Il faudra que nous expliquions. Il y a eu un malentendu entre ceux qui ont lu les premiers. Si j'en juge d'après les premières réactions qu'il y a eu à la publication de ce livre, ce malentendu est dû peut-être, j'imagine, au fait que dès les premiers propos du livre, j'ai fait allusion à un ouvrage qui s'appelle, je l'ai remis là, il s'appelle L'élan brisé, et qui est évidemment tout le contraire de ce que j'écris. Il se trouve que cet ouvrage a précédé le mien, il se trouve que l'un est très laudatif, et l'autre, il faut le dire, je le reconnais très péjoratif. Alors cela fait deux antithèses, évidemment. Cela fait évidemment deux mondes. Alors il y a eu une première idée qui s'est dégagée de cette réflexion, et il y a eu une autre réflexion qui est exactement contraire à celle qui a été émise la première fois. Et puis, il faut le dire aussi, c'est vrai, l'auteur est un auteur de qualité. Ce livre est un livre excellent, par ailleurs, sous d'autres points de vue. C'est un auteur qui a quand même un groupe politique, un parti politique, et ce livre pouvait peut-être paraître comme, oh, je ne veux pas être méchant, je ne dirais pas comme un grand, mais disons les choses comme on l'a dit. Ça pourrait être peut-être la Bible. Disons l'acte fondateur de ce mouvement. Alors, évidemment, on a tendance à lui accorder, disons, une petite auréole sacrée. C'est peut-être possible. Alors, évidemment, il était extrêmement périlleux de ma part d'oser m'adresser à cette même jeunesse qu'on venait de lire avec enthousiasme un livre où, évidemment, il y a eu quand même des choses qui avaient été exposées et qui avaient l'air d'être très séduisantes. Mais je pensais quand même, c'est peut-être une des raisons qui m'ont déterminé à publier cet ouvrage dont vous savez, je l'ai déjà dit, je crois, dans l'avant-propos. Ce livre qui avait été écrit depuis les années 70, 76, c'était un journal au début. Je vais, si vous voulez, ouvrir une petite parenthèse et vous indiquer que au départ, je voulais appeler cet ouvrage, je voulais l'appeler « Le journal d'un cauchemar ». C'était le titre que j'avais proposé à l'éditeur, qui ne trouvait pas le titre assez accrocheur, qui évidemment avait des points de vue qui n'étaient pas le mien, qui avait un point de vue essentiellement commercial, et disait « Il faut que les soignants soient là-dedans ». Et il faut qu'il y ait quelque chose de fort, quelque chose qui attire. Et alors, évidemment, j'ai dit, alors, je dis, bon, comme parmi les symboles que je pouvais trouver, que je pouvais coller à cette réflexion, il y avait la citerne, qui c'était, je crois, le symbole le plus connu, qui était l'indépendance dans la citerne. Mais à vrai dire, ce n'est pas du tout une étude. Comme on pourrait le penser, comme ceci a été une étude, l'embrasé a été une étude. C'est un témoignage, c'est quelque chose, c'est un journal intime, je ne pensais même pas à le publier. Un journal intime, où j'écrivais au jour le jour les impressions, les constatations, les émotions, les sentiments, les colères qui s'élevaient. Et qui s'élevaient alors d'un peu partout, et particulièrement de la plume qui écrivait. Je crois qu'il est absolument indispensable de ne pas perdre de vue cet aspect de la question quand on aborde la lecture de cet ouvrage. Eh bien, je pense que c'est peut-être pour cela qu'il y a eu un malentendu. Eh bien, ce malentendu qu'il nous faudra lever, je crois qu'on m'accordera ceci. Même si je ne suis pas dans l'arène politique, je ne veux pas y être. Même si je ne suis pas embrigadé dans un parti et je ne veux pas l'être. Personne. Je crois que personne ne peut me refuser le droit qui revient à chaque citoyen de s'exprimer. Je crois que en ce qui me concerne, ce que j'ai dit, c'est exactement ce que la plupart des citoyens qui vivaient alors éprouvaient dans le silence. On était réduit au silence à ce moment-là. Ou alors, si on parlait, il fallait parler dans le sens de la révolution qui avancer et qui écrasait comme un bulldozer tout ce qui pouvait se trouver sur son chemin. Eh bien, on ne peut pas me refuser cela. Mais ce que je voudrais dire d'emblée, avant, comme nous dirions dans notre jargon du prétoire, avant toute défense au fond, avant toute discussion au fond, je voudrais dire, et que cela soit bien entendu, de tout le monde. Surtout de ceux qui n'ont pas compris d'après ce que je dis dans leurs écrits, que je n'ai jamais voulu à aucun moment ni dénigrer, ni insulter qui que ce soit. Ah, mais alors me dira-t-on, pourquoi alors ? Tant d'invectives, tant d'insultes, on a prononcé le mot, à l'égard du Mongousine. Pourquoi tant d'insultes, pourquoi tant d'invectives, de diatribes, on a utilisé le mot aussi. Bien, moi je crois que c'est tout simplement de la colère. On pourrait tout simplement poser la question, pourquoi tant de colère? J'avais de la colère. Je dis j'avais de la colère. Maintenant, si je peux en parler calmement, justement, parce que je ne l'ai plus. Aujourd'hui, j'en parle, mais je suis déjà sorti de cette situation première dans laquelle je me suis trouvé et où s'exprimait simplement ma rage, qui était aussi celle de tous ceux qui ont vécu, mais dans leur chair, dans leur sang, tous les drames que nous avons vécus. C'est tout. Moi, je sais, je crois qu'il y a des explications à donner, pas seulement à ceux qui se sont révoltés parce qu'il y a eu des, je vais dire des tabous, il y a eu des icônes qui ont été bousculées, mais je crois que je dois des explications aussi à tous ceux qui ne peuvent pas s'imaginer un instant la réalité de cette époque. Je veux parler des jeunes qui étaient peut-être trop jeunes à ce moment-là pour comprendre, disons, l'atmosphère, le milieu de la citerne. C'est vraiment quelque chose de ça choque. Ce sont ceux qui ne sont pas de notre pays, qui n'ont pas vécu parce qu'ils n'y étaient pas. Ce sont ceux aussi qui ont oublié, parce qu'on a beaucoup oublié. On a beaucoup oublié. On a oublié parce que, je me demande pourquoi on a oublié. Oh si, on peut comprendre quand même, c'est pas difficile de comprendre. Que lorsqu'on vient d'être délivré, je préfère ce mot raisonnable à libérer, parce qu'en fait de libération il n'y a jamais eu au Comores. Je parle de ceux qui se sentaient délivrés d'un poids, d'un poids d'oppression qu'ils ne comprenaient pas, et qu'ils étaient les yeux fermés, c'est-à-dire dans l'humiliation. Ce n'était pas eux qui avaient fait cela. Cela est venu d'ils ne savaient où. C'est le comble de l'humiliation. Ils n'étaient pas associés. Ils n'étaient pas associés au mouvement de délivrance, au mouvement de libération qui se faisait. Alors cela, cela, évidemment, je leur dois beaucoup. Je leur dois, disons, quelques explications. Ceux-là qui ont été réveillés, délivrés, qui avaient les yeux fermés et qui, en les ouvrant, se sont trouvés devant l'inénarrable, l'infâme coupe de nard. Ah, alors là, quand ils se sont aperçus qu'ils se sont tombés du caribe dans Silla, quand ils se sont aperçus que, de toute façon, le cauchemar continue toujours et qu'il n'a jamais cessé, alors oui, on comprend qu'ils soient pris de fatigue, de dégoût, de lassitude. Après tout, pourquoi? Bon, de toute façon, c'est le même cauchemar qui continue. Je comprends qu'ils veuillent évacuer tout cela, qu'ils veuillent se débarrasser de tout cela et oublier. Mais je comprends aussi, et comment ne pas comprendre, que ceux qui venaient de perdre le pouvoir, et qui se retrouvaient amers et désabusés, qui se retrouvaient, mais absolument sans rien, alors qu'ils avaient tout, comment ne pas comprendre qu'eux aussi aient envie d'évacuer tout cela. Il y a eu un concours de circonstances extraordinaires qui a fait que pratiquement personne, non, absolument personne, ne voulait se souvenir. Il y a eu ça. Alors il faut comprendre. Comprendre que, à partir du moment où le cauchemar revient, où la nuit continue, où la nuit ne cesse pas, ce n'est même pas la peine de demander le jour, ce n'est même pas la peine de faire de la lumière, il n'y a qu'à continuer. Et plus, ce serait trop difficile. Les uns et les autres, il y a eu une espèce de connivence entre les uns, les vaincus et les vainqueurs, pour qu'on ne parle plus de ça. Mais, je pense, et plus j'y pense, plus je crois que j'ai raison. Je pense que on ne peut pas, il n'est pas bon pour notre santé mentale, il n'est pas bon du tout que nous nous arrêtions à cette situation de no man's land, de rien du tout, de clair-obscur, dont on ne sait quoi exactement.